Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre tchèque ne veut pas fixer de date d'adoption de l'euro. Ladislav Batora quitte le ministère de l'Éducation et conférence nationale des représentants de la communauté rome. S'exprimant après la réunion du groupe de Visegrad, le Premier ministre tchèque Petr Nečas a fait savoir que le gouvernement tchèque ne fixerait pas de date pour l'adoption de l'euro par son pays. D'après lui, les récents développements au sein de la zone euro indiquaient que l'on était passé d'une union monétaire à une union de la dette, état des lieux qui n'incitait guère à la hâte. La situation économique difficile au sein de l'Union européenne et notamment dans la zone euro constituait un des dossiers du jour abordés par Petr Nečas, Donald Tusk et Viktor Orban, les premiers ministres du groupe de Visegrad. Étaient réunis à Prague, à l'exception d'Iveta Radičová, démissionnaire après le refus initial mardi du Parlement slovaque de ratifier le Fonds européen de stabilité financière. Ladislav Batora, fonctionnaire d'État très controversé pour ses accointances avec l'extrême droite, a quitté le ministère de l'Éducation où il occupait le poste de chef adjoint du cabinet. Il a expliqué son départ à la presse en arguant qu'il souhaitait pouvoir exprimer publiquement ses opinions et son engagement politique, ce que ses fonctions au sein du ministère ne lui permettaient pas. Le ministre de l'Éducation, enjoint par les autres partenaires de la coalition, lui avait demandé de s'abstenir de toute déclaration politique polémique. Dans sa déclaration, Ladislav Batora a remercié le président tchèque Václav Klaus de son soutien. Connu pour sa rhétorique ultra-conservatrice, Batora avait récemment traité le président de Top 09, Karel Schwarzenberg, de « pauvre petit vieux ». Fin de citation. Les représentants de la communauté rome étaient réunis ce vendredi à Brno dans le cadre d'une conférence nationale afin de débattre d'un projet de parti qui défendrait les intérêts de la minorité rome dans le pays. Les appels pour la création d'un parti rome se sont faits plus insistants suite à la recrudescence des tensions ethniques ces derniers temps dans le nord de la Bohême. Certaines municipalités ont créé un système de politique sociale et résidentielle qui repousse les roms aux abords des villes, les excluant de la société majoritaire. Il y aurait environ 400 ghettos roms en République tchèque où vivraient quelque 80 000 personnes. De vendredi à dimanche, les galeries d'art de la ville de Prague ouvrent leurs portes gratuitement ou à prix réduit au grand public. Les Pragois pourront ainsi en profiter pour voir différentes expositions dans de petites ou plus grandes galeries de la capitale. Deux galeries mobiles présenteront les œuvres de jeunes créateurs dans d'autres villes du pays. Une trentaine de galeries d'art de Prague participent à cette édition pilote. Plus d'informations sur cet événement proche de la nuit des musées www.galerijniweekend.cz. Historienne de l'art, spécialiste du XXe siècle, curateur et protectrice de la culture tchèque en France, Jana Klavry fait partie des 13 personnalités qui ont reçu ce vendredi à Prague le prix Gratias Agit pour 2011. Depuis 1997, cette distinction est remise chaque année par le ministère des Affaires étrangères aux personnes et institutions qui contribuent par leur travail ou leur action au rayonnement et à la bonne renommée de la République tchèque à l'étranger. À noter encore que le dramaturge britannique d'origine tchèque Tom Stoppard fait également partie des personnalités distinguées. On finit par un mot de météo. Le temps sera toujours très ensoleillé samedi, jour de la fête des Teresa. Les températures seront stables et varieront entre 7 et 11 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue sur Radio Prague et merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. À l'affiche de cette émission, la situation des sans-abri au seuil de l'hiver. Ils sont actuellement près de 4000 à vivre à Prague et la municipalité tarde à révéler ses projets sociaux pour cet hiver. Nous reparlerons du festival L'automne français d'Ostrava qui organise une exposition du peintre français d'origine ukrainienne Ivan Kavoun. Dans le miroir de la société, il sera question des derniers événements politiques en Pologne et en Slovaquie. Quelques 4000 personnes vivent actuellement à Prague dans la rue et se demandent comment survivre pendant l'hiver. Ils cherchent à s'abriter sous les ponts, dans des cavernes à la périphérie de la ville ou dans les maisons abandonnées. Et rien qu'au cours de l'année dernière, 22 personnes sans domicile fixe sont mortes de froid à Prague. La capacité d'accueil dans des établissements sociaux est insuffisante et la municipalité tarde à révéler ses projets sociaux pour cet hiver. Václav Richter.
L'hiver qui arrive préoccupe donc aussi les organisations qui cherchent à aider les sans-abri. Pavla Vopelakova de l'Armée du Salut constate que les possibilités de ces organisations sont limitées.
Nous disposons d'une capacité de 157 lits, dont 95% sont occupés pendant toute l'année. C'est la capacité normale de nos établissements, la capacité de tous les établissements pragois pour les personnes démunies, y compris le Centre municipal des soins sociaux et de la prévention, qui est une organisation de la ville de Prague, est de 750 lits. Cependant, pour satisfaire les besoins urgents, il faudrait créer encore 200 à 300 lits pour permettre aux gens de la rue de se réfugier dans un endroit réchauffé.
Dans un mois au plus tard, il faut s'attendre aux premières gelées et l'armée du salut ouvrira un centre où encore une centaine de personnes pourront passer les nuits sur des chaises. Ce programme s'appelle une chaise libre, mais ce n'est pas suffisant, il faut que le nombre de ces lits augmente. Pour Pavla Vopelakova, en ce début du 21e siècle, nous ne pouvons pas tolérer que les gens meurent de froid dans la rue. Elle constate qu'un certain nombre de sans-abri meurent parce qu'ils luttent contre le froid en consommant de l'alcool. Souvent, ils s'enivrent et sans dorment, ce qui est dangereux parce que l'alcool agit comme un anesthésique. Pavla Vopelakova rappelle également que, dans le passé, Prague disposait d'un centre d'hébergement pour personnes démunies ouvert seulement pendant la période d'hiver.
Oui, ce centre d'hébergement hivernal se trouvait dans la rue Speternievova, où la municipalité a mis un édifice à la disposition des personnes sans domicile. L'armée du salut s'occupait de la nourriture des clients et l'organisation Kharita Anadieye, Charité et Espoir, assurait les services de cet établissement. La municipalité a suspendu les activités du centre, mais il faut qu'il soit rouvert. Pour le moment, nous ne sommes pas informés des plans de la municipalité pour la saison d'hiver qui est pourtant déjà à nos portes.
L'armée du salut a déjà appelé la municipalité de Prague à rouvrir le centre de la rue Spikhnevova. Elle fait également une collecte de vêtements chauds et de chaussures solides pour les SDF. Selon un récent reportage de la chaîne de télévision Nova, pour échapper au froid, certains SDF vont jusqu'à commettre de petits délits pour obliger la police à les arrêter et leur permettre de passer quelques mois derrière les barreaux, mais au chaud. Un des grands problèmes du système social pragois sont aussi les soins pour les SDF malades. Souvent, il arrive qu'une personne reçoive des soins d'urgence dans un hôpital où elle ne peut pas rester et se retrouve dans la rue bien avant d'être guérie. L'état de santé de ces malades risque de se détériorer à nouveau et de devenir source de contagion pour leur entourage. Pour combler cette lacune dans leur politique sociale et aider cette catégorie des malades, les conseillers municipaux de Prague ont décidé de créer un centre des soins post-hospitaliers. L'asile aux ce genre de service disposera de 28 lits et les malades pourront y rester pendant 15 jours.
La 20e édition de l'automne français d'Ostrava a ouvert ses portes jeudi. Dans le programme concocté par l'Alliance française figure entre autres une exposition consacrée à Ivan Kavoun. 47 œuvres du peintre français d'origine ukrainienne sont à voir au musée d'Ostrava. Président de l'association Les Amis de Kavoun, Claude Azer, est présent à cette occasion en Moravie du Nord. Claude Azer en a dit plus à Guillaume Narguet sur la personnalité et l'œuvre d'Ivan Kavoun.
C'est une association qui a été créée en 2002, un an après le décès du peintre Ivan Kavoun. L'objectif est très simple, il est double, c'est promouvoir l'œuvre et entretenir le souvenir d'un homme vraiment exceptionnel. Je vous présente le peintre, si vous le souhaitez, en quelques mots.
Oui, bien sûr. Hein.
Voilà. Alors Ivan Kavoun, c'est un peintre français d'origine ukrainienne, qui est née à Reims en 1925 et décédée en 2001, comme je viens de vous le dire. Dans l'immédiate après-guerre, il a contribué à Paris au renouvellement de la peinture aux côtés de ses amis. Ses amis, c'était entre autres Asquin, Arnal, Dmitrienko, Gautier, Lanzmann, qui était peintre à l'époque et non encore écrivain, Rezvani, qui était peintre à l'époque et non encore écrivain également, et bien d'autres. Donc il a été une des personnalités marquantes de Saint-Germain-des-Prés, à telle enseigne qu'en 1950, une petite anecdote, il décora avec son ami Jacques Lanzmann le fameux club Le Tabou, c'est un club de jazz où résonnait l'orchestre des frères Vian avec, bien entendu, Boris Vian à la trompette. Alors, pour le présenter en deux mots, c'est un peintre de ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la Nouvelle École de Paris. Il participa avec un fol enthousiasme au fameux débat entre l'abstraction lyrique et l'abstraction géométrique. Et à partir de 1953, où il s'est installé avec son épouse en Auvergne, il composa une œuvre expressionniste, une œuvre baroque, empreinte de force, empreinte de poésie. Alors je recommande vivement l'exposition Cavoun. Vous y trouverez des Auvergnes minérales, des Venises imaginaires, avec des réminiscences de Véronèse, de Tiepolo, d'Uccello. Alors encore une fois, cette œuvre est intéressante également, car elle incarne la République tchèque. À l'instar de la République tchèque, l'homme a une soif d'indépendance, et néanmoins, il est extraordinairement respectueux des traditions. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur le peintre.
Alors, s'agit-il d'une exposition itinérante, ou alors l'avez-vous préparée?
Non, c'est une exposition qui n'est pas itinérante. C'est une histoire d'amitié, en fait, l'histoire de cette exposition. Il se trouve que la présidente de l'Alliance française, Madame Zena Tipovska, est une amie. Il se trouve que le directeur de l'Alliance française, que vous venez d'avoir au téléphone, a vu la dernière très grande rétrospective de Cavoun qui s'est déroulée à Kiev en 2006. Cette amitié a conduit à la réalisation de ce projet à Ostrava.
D'accord. Donc l'idée est vraiment de présenter Ivan Cavoun au public tchèque. Je ne sais pas s'il est déjà un peu connu ici.
Je ne pense pas qu'il soit très connu en République tchèque. En Ukraine, oui, puisqu'il a été exposé au Musée national des beaux-arts de Kiev. Il a une réputation très assise en France, où il a vraiment compté parmi les acteurs très significatifs, encore une fois, de la Nouvelle École de Paris ou de la Seconde École de Paris. Ce sont les tableaux, effectivement, de Ivan Cavoun qui illumineront effectivement Ostrava. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Vous savez, Cavoun avait l'habitude de dire que ce qui est figuratif, je le pousse vers l'abstraction, et ce qui est abstrait, je l'amène vers la figuration. Et ça confère au spectateur, pour moi, un privilège exceptionnel, c'est que le spectateur devient acteur de l'œuvre de Cavoun. Donc, Cavoun, je dirais qu'il confie les clés de son art, et c'est à chacun, finalement, d'en ouvrir l'étendue avec son imagination.
C'était Claude Hazer, président de l'association Les Amis de Cavoun. L'exposition consacrée au peintre Ivan Cavoun est donc à voir en ce moment au musée d'Ostrava dans le cadre de l'automne français. Place maintenant au miroir de la société à la lumière de la presse. Les récentes élections législatives en Pologne et la chute du gouvernement en Slovaquie, les deux pays voisins de la République tchèque, ont trouvé un large écho dans la presse nationale. Nous l'avons lu et on avons choisi quelques extraits pour vous. Dans les pages du dernier supplément du quotidien Lidové Noviny, Orientace, quatre personnalités discutent de l'ouvrage provoquant la rage et l'orgueil d'Oriana Falaci, qui sort pour la première fois en version tchèque 10 ans après sa parution. Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
La Pologne, qui en raison de conditions de vie très dures n'a pratiquement pas d'immigrés, devient pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale un pays où l'on peut vivre normalement. C'est ce que l'on peut lire dans un commentaire publié dans le quotidien Lidové Noviny au lendemain de la victoire remportée aux dernières élections législatives par le parti Plateforme Civique, qui renoue ainsi avec son précédent mandat. Son auteur écrit:
ces quatre dernières années, le parti Plateforme Civique n'a rien fait de particulièrement miraculeux. Mais après les performances chaotiques des gouvernements précédents, la Pologne a enfin eu un gouvernement normal qui a apporté du calme et qui a permis à ses habitants de se reposer du fardeau de la politique, de se consacrer aux choses agréables de la vie. Et c'est justement ce que le cabinet de Donald Tusk a permis.
Et de souligner que la Pologne, tout en étant touchée par la crise financière et économique mondiale, est l'unique pays d'Europe à ne pas être tombé dans la récession. De surcroît, Elle occupe désormais une place solide au sein des puissances de l'Union européenne. En comparant ce contexte avec la situation en République tchèque, il note.
En Tchéquie, on pourrait croire que la crise de l'euro et de l'Union européenne ne nous concerne nullement, que notre couronne, les réserves de la Banque nationale et Dieu sait quoi, pourraient nous protéger de tout ce qui se passe autour de nous. En Pologne, en revanche, le danger du deuxième volet de la crise, qui serait beaucoup plus lourd que le premier, est pris très au sérieux, ce dont témoigne l'attention vouée à ce sujet tant par le premier ministre Donald Tusk que par le chef de l'opposition Jarosław Kaczynski. La Pologne craint pour l'euro et pour l'Union européenne, tandis que Prague, elle, se félicite tout simplement de ne pas avoir l'euro.
Par ailleurs, l'édition de ce jeudi du journal Mladá Frontárna observe que la perspective de l'adoption de l'euro en République tchèque a de moins en moins de sympathisants. 21% cet été contre 45% avant le début de la crise en 2008, soit le plus faible pourcentage depuis 2001, elle précise.
Même si les Tchèques peuvent se sentir satisfaits d'avoir échappé à l'euro et aux problèmes qu'il affronte, l'éventuelle chute de l'eurozone balayerait également tant bien que mal l'économie tchèque, car les deux sont étroitement liés.
Il fait également remarquer que s'il n'y avait pas eu de crise, les Tchèques seraient très probablement amenés à envier l'euro à leurs voisins slovaques, en dépit du fait que ceux-ci, après l'euphorie qui a suivi l'adoption de la monnaie européenne, affrontent actuellement des désillusions. Tchèques et Slovaques devraient pourtant espérer que l'euro sera sauvé et que l'économie européenne commencera à croître de nouveau, conclut-il.
Iveta Radičová a sauvé l'euro, tel est le titre de l'article que nous avons choisi dans la série de ceux qui ont été publiés dans la presse tchèque en rapport avec la chute mardi du cabinet slovaque de centre droit au pouvoir suite au rejet par le Parlement du renforcement du Fonds européen de stabilité financière, FESF, son auteur, Luboš Palata, a écrit.
Iveta Radičová devrait être perçue par une grande partie de l'Union européenne comme une héroïne. Pas du jour ou du mois, mais de l'année et peut-être même de la décennie. Pourquoi ? Il explique.
Elle a réussi ce que peu d'hommes politiques européens sont capables de faire, c'est-à-dire renoncer à son pouvoir pour une bonne chose, pour une cause de principe. Et sauver l'euro, c'est effectivement une cause de principe. Bien que l'FESF ne constitue pas un remède universel à l'actuelle crise de la monnaie européenne, qui est aussi celle de toute l'Union, c'est tout de même un médicament rapide et efficace.
Le commentateur apprécie que le cabinet du Premier ministre Radičová se soit opposé, au prix de sa chute et de l'avenir incertain de la Slovaquie, à la vague de populisme anti-européen qui envahit non seulement la Slovaquie, mais aussi, quoique moins visiblement, l'ensemble de l'Europe. À la fin, il écrit.
La Slovaquie est le premier pays, mais probablement pas le dernier, à payer le prix politique de la perte de la foi d'une partie de la population en l'euro, en l'Union européenne et en l'Europe unifiée. Économiquement parlant, il faudra payer lourd le maintien de l'Union, car nous avons devant nous des bouleversements et des crises. Mais il existe encore d'autres valeurs, plus difficilement calculables, ce sont la stabilité, la coopération, sinon la paix européenne.
Le célèbre ouvrage « La rage et l'orgueil » d'Oriana Fallaci demeure-t-il d'actualité ? Voilà la question à laquelle trois journalistes tchèques et un professeur d'histoire italien cherchent des réponses dans les pages du supplément Orientace à l'occasion de la publication de la version tchèque du livre que la journaliste italienne décédée avait écrit et publié il y a 10 ans de cela.
Zbigniew Petráček estime que l'appel du livre n'est pas dépassé, sauf qu'il a aujourd'hui des accents différents. Selon lui, la position d'Oriana Fallaci est radicale, tout en demeurant libérale et critique. Il souligne qu'elle défend les traditions de l'Italie et de l'Europe face à leur dissolution au profit d'une convention multiculturelle privilégiant un discours tranchant et direct à la correction politique.
Pour Petra Prochaskova, journaliste ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays musulmans, en particulier en Afghanistan, le livre en question n'est pas un appel, mais un cri un peu désespéré, mais sincère, et étayé par l'expérience, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une étude objective et vraie. En effet, la journaliste tchèque ne pense pas que les musulmans, dans le passé tout comme aujourd'hui, constituent la plus grande menace pour la civilisation occidentale, en dépit du fait que la cohabitation avec d'autres cultures, y compris celles musulmanes, représente un grand problème.
D'un autre côté, elle admet qu'Oriana Fallaci a fait preuve d'une totale liberté de pensée et d'intrépidité en tant que journaliste, et de s'étonner avec un brin d'ironie qu'en fin de compte, elle ait pu vivre jusqu'à l'âge de 77 ans et décéder de mort naturelle.
L'islam constitue-t-il un réel danger pour l'Europe, comme l'écrit Oriana Fallaci? À cette question, la jeune journaliste Teresa Chupova répond.
Moi, je ne partage pas de telles craintes, mais je changerais peut-être d'avis si j'avais à vivre dans une ville avec une forte communauté d'immigrés musulmans. C'est une situation qui n'existe pas en Tchéquie, donc je ne me sens pas menacé par l'islam. Le plus important, ce sont la tolérance et la compréhension pour une culture et une religion différentes. Déclarer aux musulmans les guerres, lutter contre eux, comme l'insigne Fallaci, ne sert à rien.
D'après Petra Prochaskova, il existe certes des dangers qui menacent l'Europe, mais l'islam n'en est pas un. Ce sont plutôt la pollution, les chauffeurs agressifs ou les émeutes d'ordre social, y comprises celles initiées par les immigrés, etc. Mais pas l'islam, dit-elle.
Et de conclure que le message prévoyant d'Oriana Fallaci ne consiste pas dans sa condamnation de l'islam en tant qu'idéologie terroriste et criminelle, mais dans le regard lucide qu'elle a supporté sur la politique européenne.
C'est la fin, chers amis, du programme de Radio Prague en langue française, réalisé par Irena Viernochova et Aleš Pezl. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention.